La première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
Deux ou trois mots de ce que on peut dire de l'amour avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est les manières d'aimer, qui commence à être en sept tableaux et qui va vous raconter une histoire. Donc avant de raconter cette histoire, on est dans l'intemporel ici. Et mon but premier, c'est qu'on regarde simplement ces couples. D'habitude, on les voit aux antiquités égyptiennes, aux antiquités étrusques et romaines, etc. Là, ils sont tous là. Et ça me paraît très important parce que c'est une pratique qu'on a perdue.
Trois voyages en cercle concentrique. Amour, Niki de Saint-Phalle et Manon Barra.
Avec la fin du paganisme, on a cessé d'avoir ces couples, mais vous savez très bien qu'on a des gisants aujourd'hui, mais enfin, on a très rarement des couples comme ça qui sont enlacés pour l'éternité des temps.
Au Louvre-Lens, jusqu'au 21 janvier, amour.
Plusieurs degrés dans cette entrée, c'est de se dire, mais pourquoi ils sont là tous ? Et ils nous disent une chose simplement, à mon avis, vous savez, l'amour, ça existe depuis longtemps, et nous espérons que ça existe encore très longtemps.
Au Musée des Beaux-Arts à Mons, jusqu'au 13 janvier, Niki de Saint-Phalle.
Le troisième, c'est que les Grecs et les Hébreux ont le même mythe sur l'origine de l'amour. Dans le banquet de Platon, en tous les cas, l'un des convives décrit à la fin du banquet qu'il y avait à l'origine trois entités. Une entité homme-homme, une entité femme-femme et une entité femme-homme. Et Zeus, qui en avait marre de voir ses sphères assimilées à la divinité se gonfler d'orgueil, si j'ai bien compris, a décidé de les couper en deux. Et depuis, ceux qui aiment les hommes cherchent leur moitié homme, ceux qui aiment les femmes cherchent leur moitié femme, et les femmes qui aiment les hommes ou les hommes qui aiment les femmes cherchent leur moitié.
À la galerie Mathilde à Sandberger, Manon Barra, face, jusqu'au 22 décembre.
Donc vous voyez qu'il y a une place, en tous les cas, dans ce mythe, pour l'homosexualité, sans problème. Mais les Hébreux ont un mythe tout à fait identique, qui a été mal traduit. Il est dit dans la Genèse, Dieu créa Adam, homme et femme, il le créa. Alors il y a deux interprétations, je donnerai la deuxième tout à l'heure. Mais la première est très simple, c'est qu'on avait donc une entité androgyne. Et quand on traduit ensuite que Adam s'endormit et qu'on tira Ève d'une côte d'Adam, c'est comme d'habitude la traduction misogyne qui fait foi. Mais la bonne traduction, à mon avis, et c'est bien dit au catalogue, c'est que effectivement, Ève a été tirée du côté d'Adam. Autrement dit, la partie féminine s'est détachée de la partie masculine, exactement comme dans le mythe. Sauf que dans le mythe grec, il y a de la place pour l'homosexualité. Dans le mythe hébreu, il n'y en a pas. Et du coup, on va avoir beaucoup moins de représentations de l'homosexualité qu'on en a d'hétérosexualité.
Avec au Louvre-Lens, Zef Gourarier, Alexandre Estaguet-Legrand. Au Musée des Beaux-Arts à Mons, Xavier Roland et Manon Barra et Mathilde Hansenberger dans sa galerie située rue de Washington 145 à 1050 Bruxelles.
Cette exposition se structure un peu comme un livre. J'ai repris un peu les choses de mon enfance où je lisais effectivement tête de chapitre où l'on découvre, où on voit que. Et ensuite, je me précipitais sur les images et après, je regardais les textes. Et bien, c'est un petit peu, si le public a la même démarche, pourquoi pas.
Trois voyages en cercle concentrique. Par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
On raconte une histoire. Et cette histoire, je dirais, l'histoire des manières d'aimer commence mal, puisque Pandore a été créée explicitement par Zeus pour le malheur de l'humanité. C'est le beau mal. Hein. On voit bien que là, elle hésite à ouvrir la boîte de Pandore qui lui a été donnée. Et là, elle l'a ouverte. Tous les mots descendent de cette boîte. Et il ne reste au fond de la boîte que l'espoir.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, me tenten, tenton, stélé.
Le monde invisible.
On voit Ève avec sa pomme et on peut se poser la question, pourquoi le serpent est allé d'abord chercher Ève plutôt qu'Adam. Après tout, le mec devrait passer d'abord. Une des réponses que les rabbins font, c'est qu'effectivement, la femme est plus curieuse que l'homme et plus conceptuelle. Donc c'est plutôt favorable. Et dans ce cas-là, Ève n'a pas été créée pour la perdition de l'humanité, elle est simplement plus curieuse qu'Adam. Adam qui, lui, de son côté, n'est pas très courageux, car quand Dieu l'interroge et lui dit « qu'est-ce que tu as fait ?», il répond « moi, j'ai rien fait, c'est ma femme qui m'a donné le fruit ». Donc voilà, cela dit, le résultat des courses, c'est quand même au 5e siècle que Saint Augustin assimile Ève à la tentation, et elle devient du coup aussi séductrice que Pandore. Mon nom c'est Zev, prénom, Gourarier c'est mon nom. Se méfier des femmes, alors avec deux tableaux qui sont presque identiques, avec ici effectivement Socrate arrachant Alcibiade des mains de ces dames, et là un classique, la tentation de Saint Antoine que j'ai pas résisté à montrer, et dans la partie biblique et dans la partie païenne, on a un peu la même histoire, il faut se méfier de la séduction des femmes. Mon nom c'est Zev, prénom, Gourarier c'est mon nom. Je suis conservateur depuis 1982 et j'ai travaillé aux arts et traditions populaires jusqu'en 2002. En 2002, j'ai été directeur du Musée de l'Homme jusqu'en 2008. En 2008, je passe brièvement à l'inspection, puis je suis directeur du Musée du Sport et à l'origine du Musée du Sport à Nice. Puis je regagne mon ancien musée qui est devenu le MUSEM, où je participe, même je crée, la plupart des espaces du MUSEM à l'inauguration.
On a choisi de mettre deux héroïnes en valeur. Une que les Hébreux considèrent presque comme une sainte, ils n'ont pas de saint mais qu'ils le louent, c'est effectivement Judith, qui ose aller dans le camp d'Holoferne, mais qui séduit quand même Holoferne, et qui lui finit par lui couper la tête, ce général assyrien qui menaçait les Hébreux. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle, elle est décrite dans la Bible comme une femme particulièrement sainte, ayant vécu saintement, etc. Alors que l'autre, sauf le respect que je lui dois, c'est une vraie salope. On ne peut pas appeler les choses autrement, puisqu'elle séduit ce pauvre Samson, dont la force vient des cheveux, et là on voit bien avec ses ciseaux qui symbolisent bien ce que je pense, en train de couper les cheveux de Samson. Donc, se méfier des femmes, ces femmes sont à l'origine de tous les maux.
Au Louvre-Lens, jusqu'au 21 janvier. Amour.
J'ai mis ici un certain nombre d'impressions populaires sur la méchanceté des femmes, la complainte des cocus, pour bien montrer que ces récits mythiques ne sont pas simplement des jolis récits qu'on se raconte, mais assoient une misogynie très forte, dont la littérature populaire se fait le reflet au XVIIIe siècle, mais je n'aurai aucun problème pour prolonger avec des ouvrages du XIXe et du XXe siècle, et même d'aujourd'hui, cette veine misogyne qui ne se tarit jamais. Donc, ça c'est important, la première figure ici, c'est la séduction des femmes est dangereuse, mais cette séduction des femmes est dangereuse, elle ne cesse pas d'exister tout d'un coup au XVIIe siècle, elle se continue bien sûr. Un historien formé par Daniel Roche à l'anthropologie historique, et donc j'ai toujours eu une approche, autant que je peux, en tout cas un modèle d'anthropologie historique, oui.
Avec au Louvre-Lens, Zef Gourarier.
On a parlé de la séduction des femmes qui est dangereuse. Elle est dangereuse pourquoi ? Elle est dangereuse pour les hommes, on l'a bien vu, qui vont s'oublier. Et là, on a l'ange bleu, on devine un peu ici, qui nous rappelle que le thème de la séduction dangereuse n'est jamais épuisé. Mais elle est dangereuse aussi parce que, et là, dans les sociétés patriarcales, c'est insupportable, elle pèse sur la lignée. Comme disaient les Romains, on sait toujours qui est la mère, on n'est pas certain de qui est le père. Et donc ça, c'est une incertitude dans les sociétés patriarcales insupportable. Le Lévitique le dit très bien, c'est grave de faire l'amour avec en dehors du mariage, mais faire l'amour avec une femme mariée est puni de mort. Et une des morts les plus ignominieuses qui soit, parce que la lapidation, en fait, toute la cité participe, c'est les bourreaux de la personne. Il n'y a pas une seule personne, c'est un rejet collectif. Alors, aujourd'hui, ça nous choque, parce que je me demande, moi aussi, quand je vois ça, mais pourquoi un tel châtiment pour quelque chose qui semble relever de l'intimité ? En fait, donc, c'est vraiment la menace sur la lignée, et lapider la femme à Luther avec toute la société qui désapprouve, se débarrasser du mal, c'est se débarrasser aussi éventuellement de l'enfant qu'elle porte et qui a cette incertitude. Donc là, on est vraiment dans ce qu'il y a de pire, hein. Voilà, mais qui n'a pas complètement disparu, hein. Et donc, dernière évocation avec deux œuvres magnifiques, cette mosaïque de l'enlèvement d'Europe et ce tableau de l'enlèvement de Ganymède. Effectivement, rappelez que les raptes sont très fréquents dans la mythologie antique et que s'ils sont très joliment représentés ici, il recouvre souvent la réalité du viol. Alors, avec une nuance très importante, on a vu le reste et les romaines, c'est qu'aujourd'hui, c'est toute l'histoire de cette exposition, on se pose la question, est-ce qu'il est consentant ou pas consentant? Je crois que ces rapes sont des rites de passage, tout simplement, par exemple, de l'adolescente vers la vie adulte. De même qu'il ne nous viendrait pas à l'idée à nous de contester un rite de passage, si on demandait au jeune homme dont le couple Eraste et Romaine s'il est consentant, je crois qu'il serait très étonné qu'on lui pose la question. Ça veut dire, par rapport à l'histoire, s'intéresser beaucoup au contexte humain. Je suis aussi un enfant de l'école des annales, c'est-à-dire de connaître l'histoire des mentalités. Par exemple, cette exposition sur les manières d'aimer s'inscrit vraiment dans les tentatives des historiens de mieux connaître, pas simplement l'évolution de la société ou des grandes institutions ou de la royauté ou des politiques, et de comprendre comment le peuple dans son ensemble évolue. Il y a une chose qui est assez amusante pour moi, qui n'avait jamais fait le rapport, en tout cas peut-être vous ne l'avez pas fait non plus. Vous avez peut-être tous entendu parler de la Dame à la Licorne, par exemple, la tapisserie de la Dame à la Licorne. Peut-être un peu moins du Studio Lo d'Isabelle Dast, où vous avez La Vertu chassant les vices, par Mantegna, ou d'autres œuvres comme ça, capitales de l'histoire de l'art, qui toutes nous racontent la même chose, fin 15e, début 16e. Il faut essayer d'aller vers la chasteté, d'avoir le moins de plaisir possible dans la relation sexuelle qui n'a d'autre but que la reproduction, de répondre à croiser, multiplier. Donc résultat, effectivement, pendant tout le XVIe siècle, éloge de la chasteté, mais vous savez bien avec Rabelais que cette chasteté, on a quelques distances avec. C'est un discours, mais pas forcément une pratique. Par contre, au XVIIe siècle, ce discours sur la chasteté, ça va être plus prégnant. Et on va avoir de plus en plus de gens qui s'isolent et qui vont rechercher la sainteté. Vous savez que le XVIIe siècle est un siècle de sainteté. Beaucoup vont connaître l'extase telle que le Bernin l'a décrite. Alors, cette extase, elle va être interpellée très récemment par Lacan, dans une de ses grands livres de psychanalyse qui s'appelle, dans ses grands cours, qui s'appelle Encore. Là, on est dans une anachronie un peu, parce qu'au XIXe siècle, les peintres sont moins préoccupés par l'extase, qui est vraiment très propre au XVIIe siècle, je dirais. Delacroix, qui s'inspire du Caravage, fait un retour un peu sur cette notion d'extase, parce que cette extase, je ne dirais pas qu'elle nous montre l'orgasme féminin, mais elle nous initie au mystère du plaisir féminin. Et donc il va peindre non plus l'ensemble du corps soulevé par l'extase, mais juste le visage de Marie-Madeleine, et dans ce visage, arriver à nous exprimer à la fois la profondeur et la noblesse de Marie-Madeleine, et en même temps la façon dont elle est traversée par quelque chose qui la dépasse et qui la transporte.
Au Louvre-Lens, Zeph Gouravier.
Nous sommes maintenant dans la passion, nous avons réhabilité la femme. Dans l'Antiquité, être amoureux, ça existe. Orphée était amoureux d'Eurydice, par exemple. Mais ce n'est pas forcément une réalisation de soi. Non. Se réaliser soi-même, c'est être pleinement citoyen, qu'on soit romain ou grec d'ailleurs, et contrôler et se contrôler. L'amour est vraiment ce qui vous fait perdre le contrôle, donc par définition, c'est plus assimilé à une maladie qu'à une réalisation de soi. Alors comment on a réhabilité l'amour? Eh bien la réhabilitation de l'amour nous viendrait peut-être d'Orient, et nous évoquons ici l'histoire de Leïla et Majnoun, qui est une très grande histoire d'amour, qui se passe en dehors du mariage, parce que effectivement, Majnoun aurait bien aimé épouser Leïla, mais il ne l'épousera pas. Il devient Majnoun, d'ailleurs, le fou de Leïla. Et donc, on a cette très belle histoire d'amour qui est une histoire qui remonte son propre, peut-être anté-islamique au 7e siècle, pas magnifiquement illustrée par l'art persan. Si on regarde l'histoire des utopies, au départ, l'utopie, c'est quelque chose qui se situe en dehors du temps et de l'espace. Et puis, au XVIIIe siècle, l'utopie va devenir une uchronie. Et donc, on va définir, soit dans le temps ancien, soit dans le futur, un temps idéal. Alors, c'est vrai que l'âge d'or, par exemple, ou le paradis, ou d'autres visions du jardin d'amour, peuvent se situer dans le temps, mais de façon mythique, dans un temps idéal où nous aurions été parfaitement heureux. Mais c'est un petit peu comme si l'humanité se souvenait de son enfance, d'une façon qui aurait gommé tous les mauvais souvenirs. Le mariage, quand je commence à attaquer ce sujet, je me dis comment je vais faire, il peut faire éclater toute l'exposition. Mais en fait, le mariage d'amour, vous allez le voir apparaître au XIXe siècle, et il n'existe pas, il n'est pas vraiment lié à l'amour avant cette période. Et vous avez un ouvrage que je vous recommande, un petit guide, qui est très mignon, qui est sorti il y a 3 ans, qui nous dit le mariage d'amour n'a que 100 ans, et effectivement, il n'a que 100 ans. Donc, On oublie le mariage dans cette affaire d'amour, parce qu'effectivement, Tristan et Iseult, c'est pas dans le mariage. Lancelot et Guenièvre, point d'avantage, on est en dehors du mariage. Du moment où on s'est aimé des poches d'amour, à mon avis, on est plus dans l'utopie ou dans l'uchronie que dans l'histoire proprement dite. Apparaît donc cette courtoisie, le fait de dédier à sa dame des poèmes, d'accomplir des exploits, etc. Cette dame qui peut à son tour répondre par des poèmes, mais dans ce cadre-là, ça n'empêche pas effectivement l'éloge de la chasteté d'exister à côté, et ça n'empêche pas le même personnage qui vient de faire sa cour de façon tout à fait courtoise à une dame d'aller violer une paysanne quelques cent mètres plus loin. Alors restons toujours dans ces apports de la courtoisie, parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que ce que je suis, c'est un spécialiste des mœurs, c'est justement montrer que les choses évoluent très lentement, s'intéresser aux évolutions. Alors on peut toujours trouver un point de départ, un moment important nodal où les choses commencent à changer, mais à partir du moment où elles commencent à changer, elles vont changer peut-être, mais très lentement. Et les échecs en sont un très bon exemple, ça me permet une transition.
Au mot galanterie, j'ai pensé, Paris capitale de la mode, c'est une des conséquences, pensez-vous ?
Oui et non. Vous touchez une question qui me passionne. En 1650, à mon avis, il y a un basculement qui a lieu au XVIIe siècle globalement, de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord. Par exemple, Fontainebleau est entièrement italien, Versailles va être entièrement français. Si ce basculement économique, il a lieu plutôt du côté d'Amsterdam et de Londres, avec les bourses qui se mettent en place. Par contre, le basculement culturel va être très largement centré sur la France. Et Versailles va donner le là dans beaucoup de domaines.
Zef Gourarier.
Voilà. Donc on peut se demander pourquoi un jeu d'échecs, ici. Eh bien, les échecs arrivent en Occident au Xe siècle. Hein, et c'est à ce moment-là le vizir qui accompagne le roi. Un peu plus tard, un siècle ou deux plus tard, j'ai plus la chronologie parfaite en tête, je crois que c'est le XIIe siècle, le vizir va devenir la reine. Au XIe siècle. Au XIVe siècle, la fin du XIVe siècle, Jacques de Cessolès, comme d'autres d'ailleurs, écrit un ouvrage qui fait référence pour expliquer que le jeu d'échecs est une métaphore de la société. Et il décrit l'importance de chaque pièce dans la société. Et quand il arrive à la reine, il dit « la reine, naturellement, doit suivre le roi, être décemment habillée, écouter ce qu'on lui dit, et suivre le roi d'une case à la fois. » Il y a d'autres règles du jeu qui vont dire quand même le jeu d'échecs peut être aussi un modèle pour la stratégie amoureuse. C'est un peu ce qu'évoque ce vitrail de Cluny, où on voit effectivement le jeune homme prendre la reine, et on a deviné que c'est une métaphore de ce qui va se passer. Et puis, fin 15e, et ça c'est ce qu'on ne montre pas ici, la reine cesse d'avancer d'une case et devient la pièce la plus puissante du jeu. Et ça, ça nous introduit un peu à ce qui va se passer. Cette reine, donc, qui devient la pièce la plus puissante du jeu, même s'il faut toujours prendre le roi, annonce effectivement n'est pas pensable sans un changement de la société. Et autre changement de la société, la danse à deux. C'est une époque extraordinaire. La galanterie ou l'amour est une partie de ce qui se passe. Ce qui m'intéressait, par exemple, comme spécialiste des arts de la table, c'est que c'est également autour de Versailles et du roi de France qu'au début du XVIIIe siècle se mettent en place les grands couverts assortis, les couverts de Sèvres. Et donc la France a donné le la, et dans le domaine de la gastronomie, très important, avec le cuisinier français de la Varenne en 1660, et plus tard, dans les arts de la table, avec les grands services de Sèvres. Et voilà, j'ai montré quand même des choses assez dures au début de cette exposition. Voilà quand même un tableau qui exalte vraiment le plaisir d'être ensemble pour la danse à deux. Un tableau très agréable. À chaque fois, j'ai le souci de me demander est-ce que ça reste réservé au milieu aristocratique ou est-ce que ça s'étend à l'ensemble de la société. Alors, le succès de la danse à deux, on va la retrouver dans les villages. On va créer sous la Régence un endroit spécial pour la danse, qui est la salle de bal. La première bal, c'est le bal de l'opéra vers 1720. Et encore un siècle plus tard, on va inventer les carnets de bal. Et le Mucem, par exemple, a une collection assez extraordinaire, vous pourrez voir, de carnets de bal. Dans l'un d'entre eux, il est écrit d'ailleurs « Tout ce que je vois me séduit ». Avec Molière, il y a un passage de la Commedia dell'arte à la Comédie française. Avec la colonnade du Louvre, Charles Perrault va détrôner le Bernin qui devait faire la... Et donc, quelque part, les architectes français vont commencer à s'emparer. Et donc, beaucoup de choses basculent. Et dans ce basculement, effectivement, vous avez par exemple une chose comme la coiffure à la Fontanges qui va apparaître au début du règne de Louis XIV. Et je me demande jusqu'à quel point, par exemple, la mantille des Andalous n'est pas un dérivé de la coiffure à la Fontanges. Ben, plaisir et libertinage, c'est assez copain. Alors, oui, parce que ça, j'y tiens beaucoup. J'ai eu beaucoup de polémiques là-dessus. Donc, vous avez au début du XVIIe siècle, dernière marche vers la galanterie, l'astrée, qui est une codification un peu des rapports hommes-femmes, mais dans une époque mythique proche de l'Antiquité, où il y a des bergeries, et toutes les bergeries amoureuses qu'on va trouver par la suite sont inspirées par l'histoire de Céladon et d'Astrée, qui est ici montrée avec Céladon fou d'amour se jetant dans l'île. Alors, on est bien préparé à ça, et il se trouve qu'après la Fronde, au début du règne de Louis XIV, un certain nombre d'hommes et de femmes de la noblesse de Rome vont s'intéresser à la relation amoureuse. Et parmi ces femmes, vous avez Madame de Lafayette qui va écrire La Princesse de Clèves, Madame de Rambouillet qui tient Salon, et un objet qui n'a l'air de rien ici, mais on l'a découvert ensemble à la Bibliothèque nationale, ça a été un vrai, vrai plaisir, cette petite carte de Tendre qui donne 3 itinéraires possibles pour aller à Tendre, avec des, donc qui spatialise la relation amoureuse. Vous avez la lettre de référence, vous avez des petits villages de sentiments, etc., et qui est un peu un itinéraire pour progresser dans la relation amoureuse. Et la galanterie, c'est ça, c'est une progression consentie dans la relation amoureuse. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'autant, par exemple, le roman de la Rose écrit par des messieurs, et Christine de Pizan dit d'ailleurs, pourfend l'un d'entre eux pour sa misogynie, autant la galanterie, 2 ou 3 siècles plus tard, est vraiment une œuvre sur la relation que les dames et les messieurs écrivent en même temps. Et donc là, on a vraiment une très belle révolution. Et donc cette petite carte de Tendre, qui se prolonge par cette petite lectrice sage, je dirais, c'est le cœur de la révolution galante. Et ce que j'aime souvent à dire, et je le pense, c'est que si Paris est encore aujourd'hui considéré comme la capitale de l'amour, c'est l'onde de choc de la galanterie qui continue de parcourir le monde, dont l'épicentre a été sous Louis XIV, et l'art de la danse, bien entendu. C'est-à-dire, grosso modo, la France devient modèle pour l'éducation, et dans toute l'Europe, jusqu'au XXe siècle, on va avoir des précepteurs qui sont français, qui parlent français, et qui vont former aux Français. Donc, oui, la France est l'épicentre pour la galanterie, mais pas seulement, et je pense que les arts de la mode montrent simplement la prégnance du modèle versaillais, là, du coup. Au départ, et très largement de Paris ensuite. Alors, suivons cette onde de choc. Elle part d'une révolution littéraire, elle se poursuit avec les plaisirs de l'île enchantée, qui sont vraiment des fêtes galantes. Elle continue avec la tragédie et Racine. Se dire qu'une grande révolution artistique, c'est quelque chose qui va toucher toutes les parties de la société. Une grande révolution des mentalités. Eh bien là, nous y sommes. Et effectivement, un paradigme qui vient de très loin, le jardin d'amour, va devenir le jardin d'amour galant où s'entretient aimablement. Et ici, donc les tombes de choc, eh bien, elle va toucher la peinture à un moment très précis, qui est 1717, quand Watteau soumet l'embarquement pour Cythère ou l'Académie, au Salon. Et cet embarquement pour Cythère est déjà venu au Louvre-Lens, donc on ne va pas le représenter une deuxième fois, mais par contre, et ce n'est pas inintéressant, on vous propose un peu une progression galante avec la déclaration, hein, celle par exemple de Charles de Bosch, le galant militaire, qui vient poser ici, avec ce qui va donner la jeune fille au piano, hein, dans ce Boilly, le concert improvisé, on est très proche de l'image classique de la jeune fille au piano, avec l'aubade qui est ici, hein, on est un tableau qui précède d'une année le barbier de Séville, donc on est vraiment dans cette optique de l'aubade. Avec le billet doux, j'ai peu parlé de toute la littérature amoureuse, elle se trouve un petit peu là, avec ce tableau de Boilly qui est très amusant, parce que moi je ne l'avais pas vu non plus. En fait, vous avez un personnage dans l'ombre, et cette dame est en train de déjeuner. Donc ce qu'on aurait dû représenter sur devant de la scène, c'est effectivement le déjeuner de cette dame avec ce monsieur. Mais discrètement, il se passe une chose, un jeune homme vient de lui apporter un mot doux. Et là, Boilly s'est amusé à montrer ce qui doit être caché, et à cacher ce qui est montré. On n'est plus très loin du libertinage. Oui, Versailles, à mes yeux, moi qui suis un spécialiste des loisirs, est un peu un laboratoire de la modernité. un laboratoire où se met en place un service de table. Je me suis intéressé à la fête foraine, à ma spécialité, mais les parcs comme Chantilly et Versailles sont les endroits où on va avoir les premières montagnes russes, les premières grandes roues, les premiers labyrinthes, etc. Dans les menus plaisirs, on a un peu les prototypes de ce que vont être ensuite les loisirs. Je pense que dans les menus plaisirs de Versailles sont en gestation notre civilisation des loisirs. Et beaucoup de choses naissent comme ça. C'est vrai pour les arts de la table. Une des choses qui me fascine le plus à cette époque, qui n'est pas vraiment à Versailles, puisque Newton n'est pas versaillais, donc c'est ce qui se passe au niveau des sciences, je crois qu'on est vers 1780, Röntgen vient de Suède, passe par l'Observatoire de Paris. Et ils ont en tête d'essayer de calculer la vitesse de la lumière. Voir ce qu'est Paris à cette époque, c'est une ville qui a un caractère encore médiéval, qui est mal éclairée, etc. On vient de construire l'Observatoire, ça fait pas très longtemps qu'on a des lunettes, et qu'on a découvert que les mondes sublunaires ne sont pas les endroits où vont les âmes des élus, mais simplement des étoiles et des planètes. Et dans ces découvertes des étoiles et des planètes, on a vu que Jupiter est une planète et qu'il y a des lunes qui tournent autour de Jupiter. Alors, je ne sais plus si c'est autour de Jupiter ou de Saturne, mais nos astronomes ont une idée. Ils vont calculer comment ça réapparaît une lune derrière, je crois, Jupiter. Et ils vont regarder aussi à quel moment précis eux voient cette lune réapparaître. Et dans le décalage qu'il y a entre la sortie de la Lune derrière Jupiter par le calcul et celle qui est par la vue, ils vont faire une première approximation de la vitesse de la lumière. Je crois qu'ils vont arriver à plus de 200 000 km/s, alors que la vitesse de la lumière, c'est plus de 300 000 aujourd'hui. Mais rien que cette approximation est quelque chose de miraculeux, à mes yeux. Ce 17e siècle, pour moi, est un temps de grâce de la pensée en général. Alors, un petit mot de spécialiste des musées de société que je suis. Vous avez ici au centre des porcelaines. Or, la porcelaine, dont le secret est enfin trouvé en 1708 par Böttger, reste au XVIIIe siècle plus, voire plus précieuse que l'or. Elle est vraiment réservée à l'aristocratie. Et l'aristocratie, à cette époque, commande les premiers grands ensembles de services de table. Et avec ces services, il y a toujours des figurines de milieu qu'on appelle surtout. Et comme on est en pleine période galante, eh bien, ces figures de surtout sont souvent des petites scènes galantes tirées de l'actualité théâtrale ou d'autres moments. Et donc, vous avez au centre ces pièces très aristocratiques qui nous figurent l'amour en porcelaine. La faïence, elle, est plutôt assimilée à cette époque-là à la bourgeoisie. Et vous avez ces grands plats de faïence qui, eux aussi, évoquent le jardin d'amour, le concert galant, etc. Mais vous avez aussi ces deux estampes avec ces petits jardins d'amour des impressions populaires qui nous rappellent que la galanterie, l'onde de la galanterie, va aussi toucher les milieux populaires. À preuve, c'est écossais galant. Là, je vais vous raconter une histoire qui me tient à cœur. Nos parcs d'attractions. Première chose, la villa d'Adrien de Tivoli qui se ruine à la fin de l'époque romaine. Deuxième chose, les peintres qui viennent à Tivoli et qui vont redécouvrir les cascades et les ruines de Tivoli et découvrir la nature. La découverte de la nature se fait largement par la peinture à Rome. Troisième chose, avec cette découverte de la nature, les Anglais vont commencer à faire des jardins. On va retrouver les cascades et les ruines de Tivoli, qui sont les jardins à l'anglaise. Et dernier élément, beaucoup de ces jardins vont s'appeler Tivoli. Et l'un d'entre eux qui s'appelle Tivoli va être installé, entre autres, par les frères Ruggieri. Et va y installer un vauxhall, c'est-à-dire une piste de danse, des jeux de banque, c'est-à-dire des manèges. Et on va avoir le premier parc d'attractions au monde qui s'appelle effectivement Tivoli et qui naît à Paris, dans le fil de la Révolution française. Montgolfière, le premier parachute, sont montrés dans ces cadres-là. Et les machines à vapeur seront montrées effectivement aussi dans le cadre de ces parcs, absolument.
Zef Gouravier.
Bien sûr, les éventails, et là, il y a toutes sortes. C'est l'éventail galant, c'est surtout les scènes qui sont représentées, qui racontent des histoires galantes.
Et le cadeau aussi.
Et c'est des cadeaux. Voilà, par exemple, je fais allusion à une histoire où une femme de lettres, à son insu, est aimée d'un jeune homme. Ce jeune homme ne sait pas comment lui dire, tellement elle s'intéresse aux lettres et aux arts, que c'est bien, mais l'amour, c'est pas mal aussi. Qui lui envoie un éventail, il lui fait cadeau d'un éventail dans lequel on voit effectivement l'amour triompher des lettres, de façon allégorique. Et puis, alors, dans toutes les expositions d'apprendre quelque chose, moi non plus, je ne savais pas, je crois qu'on est très nombreux à être dans l'ignorance, voici un busque. Donc, effectivement, dans le corset, on mettait une tige comme un sternum qui renforçait le corset. Et cette tige, comme beaucoup de cadeaux intimes, était un cadeau de l'amoureux à son amoureuse et s'ornait de devises personnelles. Et donc là, vous regarderez de près Et ça commence par « Mon feu est caché ».
La galanterie fait partie d'un ensemble plus vaste qui est la façon dont se construit un peu un modèle français, à mon avis. Dans le domaine de la gastronomie, dans le domaine des arts de la mode et dans le domaine des arts de se tenir et où la galanterie a son rôle.
Dans le libertinage, le mot le dit déjà, on a la notion de liberté et la volonté de, quelque part, s'affranchir d'une certaine façon de tous les codes hérités du passé et de conquérir en tant qu'individu véritablement singulier, que l'on soit homme ou qu'on soit femme, reconquérir une certaine liberté et trouver son plaisir librement, tel qu'on l'entend, avec qui on le souhaite. Et finalement, cette quête de liberté, elle ne va être possible que grâce à également grâce aux philosophes, bien entendu, qui accompagnent cette idée, toute cette réflexion sur l'homme, sur le fait de pouvoir se détacher justement de la mainmise, de l'influence de la religion, de contingences sociales beaucoup trop prégnantes. Mais ça va aussi fonctionner grâce à l'évolution, j'ai envie de dire, architecturale des demeures de l'époque. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au XVIIIe siècle, on va voir les intérieur transformé grâce à l'invention d'une chose que l'on connaît tous, qui est tout simplement le couloir.
Alexandre Estaquet le Grand.
Le couloir dans les maisons n'existe pas avant cette époque, et dès lors qu'il est inventé, il permet de créer des espaces plus ou moins réduits, à l'abri des regards indiscrets. Certaines de ces pièces vont avoir pour nom la chambre, le petit salon, et d'autres vont s'appeler le boudoir. Et ce sont finalement dans ces pièces privées que les libertins, les libertines, que toutes celles et tous ceux qui finalement veulent conquérir une forme de liberté et un plaisir dans ce qu'il a de plus merveilleux à offrir, et bien ce sont dans ces intérieurs clos et isolés que chaque individu va pouvoir le retrouver.
Ma Niki de Saint-Phalle, de toute façon, serait dans toutes ces périodes, mais dans la violence et dans l'énergie qu'elle donne, je trouve qu'à chaque fois, elle répond d'une manière complexe, équivoque. Elle est une femme fragile, mais elle est une femme aussi forte.
Alors, elle, à mes yeux, incarne une certaine liberté de la femme à travers ses nanas. Il y a une beauté des formes, et elle dit à propos de ces nanas sont libres, elles en ont rien à foutre du sentimentalisme et d'un certain nombre de choses qui ont aliéné la femme. Elles sont libres, elles en ont même rien à foutre des hommes. Elles expriment chez Niki de Saint-Phalle cet élan qu'a tout le XXe siècle vers la liberté des mœurs. Et en même temps, ces premières nanas, en particulier celle que nous montrons qui est une Vénus, expriment également la douleur d'aimer.
Au musée des Beaux-Arts à Mons, Xavier Roland.
Une femme qui s'est mariée très tôt, qui a eu deux enfants. C'est important de dire qu'elle a eu deux enfants avec un Américain qui était lui-même écrivain de qualité et qui, à un moment donné, on le voit dans les premières heures de l'exposition, on voit déjà ces objets qu'elle va prendre autour d'elle et qu'elle assemble dans des compositions qui sont très étranges et très dures. Il y en a une qui est vraiment très très dure, c'est un diptyque avec une lune qui pleure, avec une petite main d'enfant coupée, avec un œil, avec une lame de rasoir. On sent qu'il y a vraiment là, et elle est dans son contexte familial, ça ne fonctionne pas. Elle se fait interner, elle a ses électrochocs, elle décide de devenir artiste et elle quitte. Elle quitte sa famille, elle quitte ce cocon, elle quitte son histoire. Elle part de tout cela. Quelque chose qui, d'un point de vue culturel, peut sembler perturbant. Je dis ça vraiment d'un point de vue culturel, parce que qu'une femme abandonne ses enfants et que ce soit l'homme qui éduque les enfants, culturellement parlant, à la limite, c'est choquant. Alors que, d'un autre point de vue, c'est quelque chose qui ne serait même pas évoqué. Et donc, elle prend ce geste, mais elle doit assumer, entre guillemets, cette culpabilité. Elle le disait elle-même, que le fait d'avoir abandonné ses enfants d'une certaine manière, et que les enfants étaient éduqués par le père, elle se disait qu'elle devait produire et travailler à 200% pour justifier ce geste-là. Et puis elle tombe dans une société dans laquelle elle se retrouve seule, femme, par rapport à un monde d'hommes. À nouveau, elle se retrouve enfermée dans une culture, et c'est une nouvelle liberté qu'elle doit assumer avec des œuvres qui symbolisent le mariage, j'irais cette voie tracée de cette femme qui doit absolument donner naissance. Il y a un diptyque terrible dans l'exposition qui se présente en trois faces, avec un monstre d'un côté, une femme mariée au centre, et à gauche on voit une femme en train de donner naissance et qui en même temps tombe dans une espèce d'abîme. Il y a là quelque chose. Et quand on voit ça, et quand on a nous l'image de Niki de Saint-Phalle avec, comme ici dans le jardin du Mailleur, ces magnifiques femmes en train d'exploser de couleurs, de danser au cœur du patrimoine, avec en arrière-plan le musée du Doudou et cette architecture du 17e, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible, quand on découvre la première partie de son œuvre, comment c'est possible d'arriver à ces œuvres-là? C'est une femme qui affirme la féminité.
Au musée des Beaux-Arts à Mons, jusqu'au 13 janvier, Niki de Saint-Phalle. Quoi, Manon Barra, le modèle est-il nu?
On a une ligne sur le corps où la peinture adhère mieux sur un corps nu que sur un corps habillé. Elle devient une toile vivante. L'étudiant prend son pinceau, le modèle se tourne, danse, se contorsionne. Et après, quand on a la peinture fraîche, elle pose son empreinte.
Et je trouve que notre époque est effectivement pris en tenaille. C'est pour ça que mon ami Niki de Saint-Phalle a sa place. Pris en tenaille entre notre désir d'amour libre et... Derrière l'amour libre, ben, il y a la capacité de changer de partenaire, d'aller de l'un à l'autre, etc. Et du coup, il nous manque quelque chose qui est particulier à l'amour et qui va avec lui aussi, qui est l'engagement.
Niki de Saint-Phalle, dans les années 60, avait rejoint le groupe des Nouveaux Réalistes à Paris. Et je pense que Yves Klein, Armand, Restany étaient dans le groupe. Donc, effectivement, on a cette présence des anamorphoses.
On a Camille Claudel qui est là, et aussi George Sand, et qui toutes les trois sont des femmes qui ont rêvé de liberté, et qui toutes les trois en ont souffert.
Je pense que j'ai un profond respect pour les modèles qui posent, parce que je suis professeure de modèles vivants, de décomposition, images et mouvements, donc on travaille toujours avec des femmes. Des femmes qui sont des performeuses, qui ne sont pas simplement des objets de dessin académique. Elles se surpassent. Je trouve dans ces femmes beaucoup de liberté, dans la nudité aussi, de générosité.
Aimer, effectivement, je pense que c'est un thème très important. Après avoir travaillé sur les arts de la table et l'invention du couvert individuel, je suis arrivé à ce sujet en me disant qu'il y avait une montée du sujet depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui.
Mais des Niki de Saint-Phalle aujourd'hui, il y en a chez Louise Bourgeois, Cara Walker, Cécilie Brown. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui auraient cette énergie vitale, fondamentale qu'avait Niki, je pense.
Mais que peut-être les manières d'aimer nous donneraient des clés sur la façon dont s'effectue cette montée du sujet, particulièrement, mais pas seulement, pour les femmes, puisque par exemple l'accession des hommes à la citoyenneté en France, c'est la Révolution française. Après ça, ça sera remis en question, alors qu'il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les femmes aient à leur tour le droit de voter.
Moi-même, je suis peintre, mais je n'oserais pas me comparer à Niki de Saint-Phalle.
Alors, sans être révolutionniste, parce que les choses n'évoluent pas purement et simplement, mais je pense que les différentes figures de l'amour qui apparaissent successivement, sans que les anciennes figures quittent la scène, et que c'est intéressant de voir comment ces figures de l'amour arrivent sur le devant de la scène et qu'est-ce qu'elles nous racontent.
Une des plus grandes artistes avec laquelle je peux travailler avec mes étudiants, parce qu'elle a une dualité dans son travail, c'est jamais ce qu'on voit au premier abord. Il y a toujours un arrière-plan. Quand on pense aux nanas en premier, on oublie la période blanche qui est extrêmement importante. Quand elle est dans ses assemblages, c'est pas des objets anodins, c'est des objets tranchants. Quand elle utilise la couleur, c'est une violence de la couleur, dans le sens où... on est toujours un peu agressé, on est toujours séduit, mais on est toujours agressé dans un certain sens.
La recherche de liberté dans l'amour, et que de l'amour en général, ne va pas sans souffrance.
Donc elle est à la fois dans l'intimité, dans l'extérieur, puisqu'elle a aussi un travail d'art public.
La question du sida arrive un peu après les Trente Glorieuses. Elle est traitée indirectement dans le catalogue, je dis bien attention, avec le retour des MST, les libertés sont menacées. Mais vous voyez, les dernières œuvres sont un peu celles des Trente Glorieuses, et comme je pense qu'il est en train de se construire, après l'image de l'amour libre, justement avec les MST, en particulier avec le sida, une nouvelle image de l'amour, et que je ne veux pas la définir, je n'ai pas été tellement au-delà des Trente Glorieuses, et donc, c'est pas du tout que je ne veux pas en parler. Quand je parle, par exemple, du danger de retour en arrière, je pense que la façon dont sont vécues les MST pourrait encourager, on le voit bien, des retours en arrière sur les mœurs, et ça me paraît important de conserver ces acquis. Mais je ne veux pas m'engager sur ce que sera ce 21e siècle, hanté par, effectivement, le sida et d'autres fantasmes.
Elle sort de la relation au collectionneur, où elle propose une œuvre pour tous, dans ses sculptures monumentales. Une artiste qui sacralise, mais qui désacralise, puisqu'elle fait des compositions, mais qu'elle décompose en tirant dessus.
Mathilde
Hatzenberger.
Et nous sommes au 145 rue de Washington, dans votre galerie où
oui.
Manon Barra, que j'ai rencontré à Mons, expose.
Faces, face aussi, si. C'est vraiment là un double jeu sur. Évidemment, face en français, tout d'abord, la question de la frontalité, en fait, que je voulais évoquer là. Une allusion à la peinture très directe, et en un sens assez facilement accessible à tout un chacun. Mais c'est aussi Faces, la référence au portrait, puisque nous sommes ici dans une galerie de portraits, autoportraits et portraits animaliers de Manon.
Ours, pigeon, cheval, lapin.
Cochon. Elle a intitulé ce tableau le sourire du cochon. C'est une évocation comme beaucoup d'autres, j'aurais envie de dire. Car en fait, cet art que je vous disais très très direct est aussi extrêmement subtil et profond. Et ressortent nombre de références, d'allusions et qui selon les personnes vont aller très loin. Évidemment, la grande peinture.
Elle est née le 29 octobre à 6h40 à Neuilly-sur-Seine en 1930.
On a choisi Nikita Saint-Phalle parce que, avec ses nanas, elle incarne, d'ailleurs elle le dit elle-même, elles n'en ont rien à foutre, elles sont heureuses, elles n'en ont rien à foutre des mecs ni de quoi que ce soit, et elles sont épanouies.
Le père était banquier, et il y a eu aussi un krach boursier, donc je crois que c'est une famille riche mais qui connaît un désenchantement.
Et donc, les femmes ont participé, effectivement, à cet élan vers l'amour libre. Mais ils ont laissé des plumes. Et que ça soit Camille Claudel, que ça soit Georges Sand, ou que ça soit ici, surtout, Nikita Saint-Phalle, on a à la fois une de ces toutes premières nanas avec ses formes féminines qu'elle va faire chanter et danser, mais en même temps, c'est une Vénus qui semble sortir de terre, je dirais presque en étant passée par les égouts. On a, par exemple, ces fleurs qui viennent du cimetière. Probablement.
Là, il y a une couverture de magazine, c'est dans les années 48 où elle fait Vogue, justement. Là, il parle donc de l'artiste avec qui elle a fondé sa famille. Donc, entre 1930 et jusqu'à sa dépression, il y a la naissance de sa fille en 51. C'est 53 où elle décide effectivement de partir et de devenir artiste en tant qu'Amazon moderne.
Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit complètement épanouie, et je trouve finalement très bien qu'elle nous interpelle sur cet amour libre, parce que quand on dit l'amour est enfant de bohème et je vais avec qui je veux, quid de l'engagement, quid de la possibilité d'avoir un amour durable. Et là on voit bien que ce qu'exprime Nikita Saint-Phalle 4 ans plus tard après avoir fait cette nana, cette Vénus, par rapport à Tinguely, c'est vraiment l'envie d'un amour solide qui ne se réalise pas avec Tinguely.
On peut penser aussi à Rops, évidemment. Mais c'est vrai que le coq aussi, qu'on n'a pas, je crois, évoqué dans notre liste, est un sujet pas si fréquent, surtout à cette échelle-là, qui est vraiment comme un... prend sa place à côté de ses autoportraits.
qui sont aussi revêtus de loups, qu'on appelle des loups.
Alors les loups, les accessoires, la mise à distance dans les autoportraits est peut-être caractéristique. Rares sont les autoportraits de Manon, où n'est pas un filtre ou un élément qui nous mette et la mette finalement loin du centre du sujet, de son tableau.
Bah ça, c'est une des plus belles photos, je trouve, dans le jardin des tarots à la fin de sa vie. C'est une femme qui a été belle tout le temps, je trouve.
Mathilde Hatzenberger, je rencontre Manon Barra à Mons dans son rapport avec cet artiste du Nouveau Réalisme. Il y aurait du Niki de Saint-Phal chez elle ?
Une femme très intelligente d'un certain point de vue commercial, c'est qu'elle a su faire des dons pour que son œuvre soit vue du public. Même, je pense, quand le Jardin des Tarots, il lui manquait un budget ou quoi, elle avait fait une marque de parfum. L'objet dérivé, chez elle, je trouve, est conçu intelligemment. Pas pour l'argent, mais pour assouvir la grandeur de ses projets. C'est assez dingue.
Elle serait plus à l'antithèse de Niki de Saint-Phal, plutôt pour moi. Ce n'est pas une opposition, c'est simplement une antithèse. Je crois qu'elle partage ce même sens. Manon est capable de performance, capable elle-même, est une œuvre de son œuvre. Donc en ce sens, je les rapprocherai complètement. Après, c'est plus quelque chose qui est certainement dû à leur biographie très différente. Manon, elle, est quelqu'un de solaire, enthousiaste, qui a une sorte de moteur, qui est vraiment engagé dans la vie, je crois. Ce qui n'était pas tout à fait le cas de Niki de Saint-Phal, qui a connu des heures plus, peut-être plus heureuses à la fin de sa vie. Mais voilà, Manon, c'est quelqu'un de ce point de vue-là, qui a, je crois, un peu moins d'ombre à son tableau. C'est ce qui les différencierait, fondamentalement. Et qui fait que, voilà... Éminemment, Manon, elle est quelqu'un qui est engagé dans la couleur, dans la matière, dans la chair. Chez Manon, il n'y a pas de compte à régler. L'art à partager, l'art qui est toute sa vie, toutes ses formes, bon, qui est avant tout une grande peintre. C'est là où, je crois, c'est ce que j'ai voulu montrer dans cette exposition, c'était sa qualité de peintre. Et qu'on se focalise uniquement sur cela, par cet aspect-là. Ce sont ces thèmes absolument représentatifs, mais non exhaustifs, mais voilà, et quelqu'un où on voit la vie qui vibre à tout instant dans la surface.
L'œuvre de Niki de Saint-Phal, que tout le monde connaît ici, qui est fort décriée, par les intellectuels, par les historiens de l'art, etc., beaucoup ont une image tronquée de son œuvre parce qu'ils ne connaissent que ses nanas, mais une fois qu'on découvre et qu'on comprend d'où viennent ces nanas. Elles ne viennent pas de nulle part. C'est pas à un moment donné Niki de Saint-Phal qui se réveille et je vais faire ces nanas-là. Non, il y a un cheminement personnel qui est toujours en articulation avec sa vie et avec le monde extérieur, qui à un moment donné, et l'exposition, je pense, le montre bien, où elle n'est pas dans un schéma de violence. C'est pas une femme violente. C'est pas une femme qui non plus vit dans le conflit. Et naturellement, il y a quelque chose qui se réconcilie avec elle-même. Et elle se réconcilie avec quoi ? Avec sa féminité. Elle se réconcilie avec ce qui fait l'identité de la femme, c'est-à-dire cette capacité à donner la vie, avec ses corps, avec ses rondeurs, avec cette souplesse. J'ai envie de dire que si on pose la question « Est-ce que l'art a-t-il un sexe ?», je crois que Niki de Saint-Phal répond à la question.
Donc, cette figure de l'amour libre, je la trouvais, quand au départ de cette exposition, je me suis dit « C'est merveilleux, on est arrivé au mouvement hippie, tout le monde s'aime, etc. » Et je me rappelle avoir entendu encore une conférence il n'y a pas si longtemps à Marseille, où une dame commençait par « L'amour libre, ça n'a pas vraiment bien marché avec les femmes. » Voilà, et donc se pose vraiment la question de l'engagement qui est posée ici à travers les sérigraphies de Niki de Saint-Phal.
Trois voyages en cercle concentrique. Amour, Niki de Saint-Phal et Manon Barra. Au Louvre-Lens jusqu'au 21 janvier. Amour. Au musée des Beaux-Arts à Mons jusqu'au 13 janvier, Niki de Saint-Phalle. À la galerie Mathilde à Sandberger, Manon Barra, face, jusqu'au 22 décembre. Avec au Louvre-Lens, Zef Gourarier, Alexandre Estaquet-Legrand.
Les artistes sont à la fois des génies, mais en même temps pas des génies qui existent isolément de leur temps. On va avoir une chose très simple, par exemple, au XVe siècle, ce qu'on va mettre en avant, et des grands artistes comme Emling dans l'exposition, mais bien d'autres, Fra Angelico, vont faire un éloge de l'Annonciation, du retour de la Vierge, un éloge de la chasteté, par exemple. À l'époque libertine, et je crois qu'il n'y a pratiquement aucun artiste qui travaille sur l'éloge de la chasteté, il travaille tout à fait sur autre chose, parce que les figures de l'amour ont évolué.
Au musée des Beaux-Arts à Mons, Xavier Roland et Manon Barra. Et Mathilde Hansenberger dans sa galerie, située rue de Washington 145 à 1050 Bruxelles. Trois voyages en cercle concentrique. Partie Rijonico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.